le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Joël Pommera pour l'ensemble de son œuvre, comme on dit à Cannes, enfin presque. Nous parlerons de trois œuvres tirées de l'univers des contes et qui se jouent soit en tournée, soit à Paris, soit à Aix-en-Provence. Le temps buissonnier partagé aussi avec Laetitia Guédon, directrice des Plateaux Sauvages, mais aussi comédienne, metteur en scène, pour une naissance, une ouverture, un lieu, un espoir donc. Mercredi dernier, alors que j'étais en train de lire dans le silence bruissant de notre petit village de Haute-Ariège, Carmela entre chez moi, sans frapper, rouge de colère, son ami le grillon Negrito juché sur ses boucles brunes. Mais que vous arrive-t-il, mes amis ? Ce n'est pas à nous qu'il arrive quelque chose, mais au monde, répliqua sèchement et solennellement le grillon. Carmela reprit avec véhémence. Entends-tu le nouveau mot ? Qui revient sans cesse dans la bouche du président et de ses affidés comme un mantra ? Non, je ne vois pas. Ah, tu n'entends donc rien. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Ah oui, vous avez raison. Mais où est le problème ? C'est un beau mot, non ? Bienveillance. Un beau mot ? En apparence, oui. Mais réfléchis un peu, ricana le grillon, qui venait de se poser sur le bout de mon nez, sachant combien je ne supportais pas qu'il prenne mon nez pour une estrade. Carmela enchaîna. Ce mot n'est pas aussi innocent qu'il paraît, surtout dans un mouvement qui veut devenir hégémonique. Hégémonique. Mais enfin, c'est un grand démocrate, notre président Emmanuel Macron. Que tu crois, mais sont ni droite ni gauche, tout le monde il est gentil et nous serons gentils avec tout le monde, dessine en creux une forme moderne du parti unique. Tu ne trouves pas ? Bon, vous exagérez toujours, vous deux. Non, je ne vous suis pas. Et pour toi, ce n'est pas la figure du chef, l'image conquérante de la remontée des Champs-Élysées dans une voiture militaire le jour de son investiture ? Oui, c'est vrai qu'il a fait fort là, même De Gaulle n'avait pas osé quand même. Ah, tu vois ? Triompha le grillon. Pas de quoi être surpris, ricana Carmela. Emmanuel Macron n'a pas caché son style avant d'être élu. Ses initiales pour nom de son mouvement, EM, des déclarations martiales comme « rien ne m'arrêtera » ou « nous serons des guerriers ». Ok, mais enfin la fameuse bienveillance devrait donc vous rassurer les enfants. Pas du tout. Les paradoxes et les oxymores entre les déclarations et les attitudes a de quoi inquiéter au contraire, car ils sont propres à brouiller les esprits et à nous anesthésier. Alors, pourquoi s'arrêter sur ce mot « bienveillance » Dites-moi. Negrito souffla comme excédé et laissa Carmela expliquer. D'abord, parce que répété sans cesse, et comme seule réponse aux questions précises sur le programme politique, il ressemble à ces déclarations main sur le cœur qui disent le contraire de ce que pense réellement la personne. Mais même si les REM et EM étaient sincères en l'employant, que signifie ce mot ? Nous avons cherché, nous, avec Negrito. Le sens commun est un peu rapide et positif. Vouloir le bien pour quelqu'un, ok. Mais à y regarder de plus près et à entendre la petite musique qui vient de plus loin, ce mot nous a toujours hérissé avec Negrito. En effet, bienveillance vient aussi du langage religieux chrétien. Dieu bienveillant pour les fautes des hommes. Et d'ailleurs, jusqu'au XXe siècle, il y a un sous-entendu de condescendance dans le mot. Et il résonne toujours quand nous l'entendons, nous, pas toi. On est bienveillant de supérieur vers inférieur. La bienveillance vient toujours d'une autorité, comme une bonté d'âme. Un tel gouvernement, pour nous, est un danger. C'est la main de fer dans un gant de velours. Emmanuel Macron n'a-t-il pas rendu hommage à Margaret Thatcher ? Oh, quand vous y allez, ah là là, vous me donnez le vertige, tiens. Bon, d'accord, on s'en va, déclara hautain le grillon. On te laisse à tes lectures, rendez-vous dans un an. Mais nous, face au sourire mielleux et hautain, et à la bienveillance, nous demandons seulement du respect. « Joël Pommerat, je suis ravie de vous recevoir dans cette émission. Ce n'est pas la première fois, avec un beau programme. On dirait que... Alors, bien sûr, il y a Saïra, on en a parlé il y a quelques mois dans cette émission. Mais à côté de ce spectacle tout public, d'ailleurs, je tiens à le rappeler, je ne sais pas s'il tourne encore, Saïra, ça tourne encore ?
Oui, bien sûr, oui.
Parce que j'ai vu beaucoup d'adolescents, et assez jeunes, des jeunes gens de 12, 13, 14 ans, qui se sont passionnés pour ce spectacle et qui ont compris beaucoup de choses. Ça vous étonne ?
Peut-être vous allez un petit peu loin quand vous dites 12 ans. Ah, d'accord. Bah alors
c'est pour
très
ça, c'est en discutant avec eux.
C'est très bien. Bah, tant mieux, c'est inespéré. Parce que, à vrai dire, je ne l'ai pas fait dans l'intention d'éduquer qui que ce soit. Justement, je n'ai pas cette condescendance-là.
C'est peut-être pour ça que vous les touchez, sans doute.
Bah voilà, c'est les mystères de la transmission et de la création. Quoi. C'est, peut-être qu'il y a quand même une sorte d'effort de clarté dans ce spectacle. Je crois que quand j'ai essayé d'explorer l'univers de la Révolution française, je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe et bien plus vraiment moins simple que la petite légende qu'on nous transmettait aujourd'hui de ces événements. Et donc j'ai essayé de rendre cette complexité, mais pour rendre de la complexité, il faut aussi y mettre un peu de clarté. Et peut-être que c'est ça qui rend accessible...
Je pense
spectacle.
Que ce qui touchait du souvenir que j'ai de la discussion après le spectacle, c'était l'énergie, c'était le débat, c'était le goût et la liberté de débattre, de parler jusqu'à engager le corps presque physiquement, jusqu'à la bagarre. Et c'était des jeunes qui disaient, pour les plus âgés, ils avaient 15, 16 ans, et ils disaient, mais ça n'arrive plus, on nous demande toujours de répondre à des questions, de nous tenir bien, on peut plus débattre. On peut plus discuter. Et pourtant, on aime ça. Et ça, c'était amusant de trouver ça dans ce jeune public. Après, la leçon d'histoire, je n'ai pas poussé jusqu'au bout pour savoir jusqu'où elle avait été entendue.
Mais alors, c'est vrai que, je pense que dans ce spectacle, la parole, c'est une vraie action, quoi.
C'est ça.
En plus, hein. Et ça engage, justement. C'est pas une parole, on va dire, derrière laquelle on se cache. C'est une parole qui met en jeu tout un tas d'éléments extrêmement concrets et on a travaillé pour que effectivement les comédiens engagent également leur personne et leur corps.
Alors le corps, vous faites bien d'en parler, évidemment, Joël Pommerat, parce que, y compris dans Le Petit Chaperon Rouge, on va déjà parler de ce spectacle qui tourne depuis quand ? Ça fait longtemps maintenant.
Il a été créé en 2004, donc je crois que ça fait 13 ans.
Voilà. Et moi, je l'ai vu à la création et je n'ai rien oublié. Alors, on va en écouter un extrait, on va voir comment la parole et le corps, même à la radio, sont imbriqués.
Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors à de très rares occasions. Donc, elle s'ennuyait, car elle n'avait ni frère, ni sœur, seulement sa maman. Qu'elle aimait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Alors elle jouait seule, toute seule. Sa mère. Mais le temps manquait à sa mère pour pouvoir jouer avec elle. Sa mère disait toujours « Le temps me manque. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Il me manque du temps. »
Ce sont les talons de la mère toujours pressé, qui court partout, que nous entendons. C'était saisissant, cette interprétation de ce conte merveilleux. Nous allons parler d'autres pièces, parce que celle-ci donc date de 13 ans, mais est toujours en tournée. Je vous conseille vraiment d'aller la voir ou de la revoir. Du 17 octobre au 26 mai 2018, elle va aller à Marseille, à Strasbourg, à Rambouillet, à Figeac, à Saint-Céré, et plein d'autres villes, mais d'ores et déjà, vous pouvez jusqu'au 2 juillet aller au Théâtre de la Porte-Saint-Martin pour Cendrillon. Alors Cendrillon, Joël Pommera, c'est encore une histoire de mère et de fille, et c'est une histoire de temps, mais du temps que l'on n'a plus, puisque la mort est là, mais du temps qui peut durer parfois, parce que le deuil ne passe pas, à partir d'un contresens, d'un lapsus, on pourrait dire, d'audition, c'est-à-dire la dernière parole de la mourante, la mère, qui va être entendue d'une certaine manière par la fille. Quelle belle manière de revisiter ce conte. Là, c'est vraiment de la création par rapport au conte.
En même temps, j'ai l'impression que j'ai tiré du conte toute la thématique comme ça de la mort de la mère. C'est pas quelque chose qui est complètement plaqué ou que j'aurais réintroduit en plus du conte. C'est là. Dans la version de Grimm, je pense que c'est dit, mais ça n'est, c'est comme souvent dans les contes en fait, il n'y a pas d'explication, on passe sur les choses, même les choses importantes, elles sont dites sans plus. Et c'est vrai que c'est au conteur, c'est à celui qui s'empare du récit pour le raconter à nouveau, puisque un conte ça se transmet de personne de manière orale et de conteur en conteur. C'est à chacun de en quelque sorte de mettre l'accent sur un point, un détail qu'il a envie d'explorer particulièrement. Et moi j'ai eu envie, et c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision de monter cette pièce, j'ai eu envie de travailler sur voilà sur la question du deuil chez un enfant, parce que ça me paraissait être non seulement éclairant pour cette histoire, comprendre que cette jeune fille qui est la gentillesse, l'acceptation docile faite femme, en fait ne pouvait pas être dans cette attitude-là sans raison, et ça passait pas chez moi cette idée comme ça de la gentillesse pour la gentillesse, quoi.
Oui, celle qui tend l'autre joue, quoi, finalement.
Voilà, et qui est de naturel comme ça. Non, j'ai compris, ou j'ai interprété une forme de comme ça de punition, ou de voire même de une petite forme de masochisme comme ça à se servir des autres pour se faire du mal, pour souffrir, quoi. Et donc il devait y avoir un problème chez elle,
une culpabilité au fond.
Et quelque chose qu'il y avait avec la difficulté d'accepter de continuer à vivre elle sa vie, alors que voilà cette mère aimante et qu'elle aimait aussi n'est plus là. C'est déjà quelque chose de compliqué pour un adulte de, comme on dit, de faire le deuil de plusieurs façons, ce qui implique plusieurs situations d'ailleurs. C'est en finir avec son chagrin si on peut, et aussi accepter de continuer sa vie et de continuer à éventuellement aimer,
être
penser à autre chose et être heureux pour finir.
Et au fond, la mère, c'est ce qu'elle donne à sa fille, cette permission, et sa fille ne l'entend pas.
Oui, alors moi je dirais que le lapsus, c'est pas quelque chose qui est déterminant, c'est par le lapsus que la situation que je développe ensuite est possible. Mais le lapsus ne m'a jamais semblé essentiel. Souvent, les gens qui regardent cette pièce le remarquent et le mettent en évidence. Et à vrai dire, pour moi, c'est un moyen pour arriver à créer cette situation dont on vient de parler, quoi.
Alors, que ce soit le Chaperon Rouge ou Cendrillon, on est là dans des univers très féminins, où les hommes, finalement, sont très accessoires, si je peux le dire comme ça.
Peut-être, qu'est-ce qui se passe? Oui, dans Cendrillon, c'est vrai que la place de l'homme, elle est pas terrible. C'est vrai que c'est un personnage, le père est un personnage plutôt faible et écrasé, et qui, voilà, on peut avoir une certaine compassion vis-à-vis de lui, mais bon, c'est vrai qu'il est, j'aime pas dire du mal de mes personnages, mais il est pas terrible. C'est vrai.
C'est drôle ce que vous dites, Joël Pommera. Alors Pinocchio, lui aussi. Là, encore une fois, en créant Pinocchio, d'abord en pièce de théâtre, et puis maintenant en opéra, vous redonnez à ce personnage, enfin, vous allez jusqu'au bout là aussi, vous le rendez pas toujours aussi sympathique qu'il n'y paraît.
Oui, mais je pense que dans la version de Collodi, et encore une fois, j'ai l'impression que je suis motivé par une forme de fidélité dans ce travail de réécriture des contes. J'ai réécriture et en même temps fidélité. J'essaye de rendre des choses que moi j'ai perçues dans pour le coup dans la version de Collodi, mais on a une forme de souvenir écran vis-à-vis de cette histoire, oui, de Pinocchio. C'est le film de Walt Disney, bien sûr, qui bien est sûr. D'ailleurs formidable, après tout. C'est pas, il n'y a pas que du mal, du mauvais chez Walt Disney, mais qui édulcore complètement cette histoire, qui ont fait un personnage vraiment tout de suite très sympathique, alors que le personnage de Collodi, il est moche, il est vraiment une tête à claque, vraiment, mais pas, c'est pas des mots, quoi. C'est vraiment, il est insupportable, c'est pas agréable, quoi.
C'est, il est pas loyal.
Il a aucune scrupule, il est arrogant, il est c'est la bêtise incarnée. Moi, pour le théâtre, c'est formidable, un personnage comme ça. Mais il n'est pas sympathique, et j'ai pas cherché à le rendre sympathique, voire j'ai essayé de garder cette antipathie qu'il pouvait dégager. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse finalement quand même arriver à s'attacher à quelqu'un qu'on a presque détesté au départ, quoi. Comprendre en quelque sorte, à travers les galères que lui va rencontrer, comprendre que ce faux petit garçon, cette espèce de créature, elle a dans la souffrance. Alors, j'espère que c'est pas trop chrétien de dire ça, mais dans la souffrance, il va quand même finir par comprendre, en tout cas, que l'autre existe, voilà, qu'on a aussi besoin de l'autre, et que le monde n'est pas uniquement conçu à son service.
Alors, la pièce de théâtre a existé pour vous, et vous avez eu le désir d'en faire un opéra. Quelle voix vous donnez à Pinocchio ? Est-ce que vous avez, bien sûr, la musique, vous l'avez confiée à un compositeur, mais
je l'ai pas confié. Hein, l'opéra, ça se passe pas comme.
C'est pas parti de votre désir de faire l'opéra.
Non. Ça marche pas comme ça à l'opéra. On vient vous chercher, on vous demande si vous êtes intéressé par un projet, et on vous demande éventuellement quel projet vous intéresserait. Mais moi, quand je fais des spectacles, je demande la permission à personne. Je suis producteur, on va dire. Voilà, je suis directeur de ma compagnie, je suis producteur de mes projets, je décide de A à Z, a priori, ce que je vais faire. Là, à l'opéra, on est quand même dépendant de moyens énormes, et on est donc dépendant d'une structure d'opéra. Là, en l'occurrence, c'est le Festival d'Aix qui a envie de faire un opéra à un moment donné avec Philippe Boussmans, et comme on a déjà collaboré une fois ensemble, qui nous propose à tous les deux finalement de faire un projet, un petit peu, voilà, le projet qu'on veut. Et à ce moment-là, effectivement, on décide de faire Pinocchio.
Alors, Pinocchio, c'est quelle voix dans l'opéra ?
Soprano.
Soprano.
Ouais, c'est une voix d'enfant, une voix aiguë, on va dire.
Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire un livret d'opéra par rapport à la pièce de théâtre ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent ? Qu'est-ce que vous avez fouillé davantage ?
L'exercice de l'écriture d'un livret, c'est quand même à partir d'une œuvre existante. En l'occurrence là, c'était ma pièce qu'il fallait ramener en livret. Et donc c'est d'abord un resserrement. Les mots doivent être évidemment épurés, parce que la vitesse du chant et pas la vitesse, le rythme de la parole parlée. Et donc on va dire que le gros du travail consiste à essayer de garder la structure dramaturgique, le sens des choses, de rien sacrifier, tout en épurant. C'est un exercice qui m'intéresse énormément, parce que déjà, quand j'écris pour le théâtre, dans mon écriture, il y a cette recherche, et je suis plutôt quelqu'un qui cherche à dire sans dire, ou qui cherche par l'économie à exprimer le maximum, quoi. Donc, en ce sens, c'est quelque chose de très intéressant de travailler pour l'opéra.
Est-ce que le jeune public va adhérer comme au théâtre ?
Alors,
ça va être la surprise.
Ça va être la surprise, parce
puisque c'est du 3 au 16 juillet.
On vient juste de commencer à répéter. Mm-hmm. Et
vous l'avez
création...
en tête ou pas ? Vous l'avez en tête, le jeune public, ou pas ? Pour cette création ?
Pour cette création ? Non, parce que c'est vraiment en première expérience, en quelque sorte. Hein. La première fois que quand j'ai fait Le Chaperon Rouge, j'étais mort de peur parce qu'il y avait vraiment cette incertitude, quoi, de la rencontre. On fait quelque chose en pensant à, en l'occurrence à des enfants, mais on sait pas tant que les choses ne se passent pas, la rencontre ne se passe pas. Et là, c'est la rencontre vraiment qui va donner son dernier mot.
Eh bien, ça sera du 3 au 16 juillet au Festival d'Aix-en-Provence et j'espère qu'ensuite, ça bougera en France ou ailleurs.
Ah, ça va bouger, on va tourner, on sait déjà qu'on va tourner à Dijon, on va tourner à Bruxelles, un petit peu en dehors de France, à Bordeaux également.
On essaiera de vous suivre, merci. Alors, à côté de vous, Laetitia Guédon. Laetitia, bonjour, vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène et vous êtes la toute nouvelle directrice des Plateaux Sauvages, qui est un projet assez ambitieux à Paris. Le désir de créer un lieu énorme, combien de mètres carrés?
Presque 3000 mètres carrés.
Ah oui, quand même. Ça vous fait rêver, hein, ça, Joël Pomera, je vois qui se rit. Qui va être ouvert et partagé le plus largement possible. Alors, c'est un projet, on va voir si vous y arrivez. Qu'est-ce qui vous a animé dans ce projet que vous avez, il y avait un appel d'offres que vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez mis en avant, quel est votre désir le plus cher pour ce lieu qui est dans un quartier très populaire de Paris, le 20e arrondissement, et où déjà il existe des choses, c'est-à-dire des ateliers, de pratiques, etc. Qu'est-ce qui vous a porté?
Alors, ce qui m'a porté, c'est que c'est un projet qui est vraiment original dans le sens où il est vraiment au carrefour de la création professionnelle et de la transmission artistique. Moi, je l'ai vraiment imaginé en me souvenant des carences que j'avais eues en tant que compagnie émergente, c'était il n'y a pas si longtemps, sur plutôt la phase de création, d'incubation, de recherche, plus que sur l'objet fini. Donc, c'est un lieu qui se destine à accompagner des compagnies dans leur processus de création, en mettant à disposition des espaces, en leur donnant des outils pour aussi prendre le temps de créer leur projet, d'accompagner des très jeunes artistes. On sait qu'un metteur en scène, il se fait pas en un ou deux spectacles, mais de les confronter aussi à des artistes beaucoup plus confirmés, qui ont plus d'expérience et de métier. Et puis surtout, c'est un projet qui s'inscrit dans le partage. J'insiste sur le mot de transmission artistique toujours, puisque tous les artistes de la programmation viennent avec un projet qui infuse sur le territoire et où ils viennent partager leur processus de travail, ce qui fait sens pour eux, avec une école, un collège, un lycée, un foyer de jeunes travailleurs, un foyer de migrants. L'idée, c'est de dépasser un peu le concept d'action culturelle, qui est un mot qui me gêne un petit peu, une expression qui me gêne dans sa dénomination. Ça me donne toujours un peu l'impression que nous, les artistes, pleins de savoir, on va aller élever les masses populaires qui, évidemment, n'y connaissent rien. L'idée de la transmission artistique, c'est plus se dire que l'artiste est invité à faire aussi un pas de côté dans sa création, en venant la confronter à un public qui ne sont pas des professionnels, qui sont des gens qui vont venir questionner les enjeux du travail. Et puis, les Plateaux Sauvages, c'est aussi l'envie d'un lieu de vie, un lieu qu'on peut venir fréquenter pour rencontrer des artistes, mais aussi pour boire un café. Il y aura un bar qui sera dédié à des jeunes chefs. Il y aura une librairie qui sera autour des auteurs émergents de la francophonie, où on pourra découvrir aussi des manuscrits en cours d'écriture, mettre cet accent-là. Et puis, des ateliers de pratique amateur, où on pourra venir faire du théâtre, de la danse, du chant, toute l'année à tarification sociale. Même la billetterie est pensée de façon responsable.
Ah, vous avez réussi ça? La billetterie, ouais. Parce qu'il y aura des spectacles.
La évidemment. Billetterie, on a envie de vraiment... Il y aura des spectacles, il y aura une programmation. Les artistes sont soit en sortie de résidence, quand c'est une étape de travail, soit en création, les programmes Didate. Et on va inviter le spectateur à se questionner sur... combien il peut payer, qu'est-ce qu'il peut payer, combien il peut payer une place de théâtre à un instant de sa vie. Moi, il y a à peine un an, j'étais intermittente du spectacle. Quand on est intermittent, on a la gratuité des musées, par exemple. Moi, je vais énormément au musée. Ça me gonflait pas mal de devoir donner mon relevé à Cédic en montrant ce que j'avais pointé pendant le mois à quelqu'un que je connaissais pas. Donc là, l'idée, c'est de dire que on peut avoir 35 ans et pas du tout avoir d'argent, avoir 24 ans et gagner sa vie, c'est au spectateur de décider ce qu'il peut mettre et il pourra même acheter des billets pour des gens qui n'ont pas du tout les moyens de mettre même pas 5 euros.
Bah, c'était un projet audacieux parce que c'est le genre de détail épineux, j'imagine, en général. Alors, il y aura 14 compagnies en résidence pour la première année d'existence. Comment les avez-vous choisies en très peu de mots? Parce que ça doit être épouvantable parce que j'imagine qu'il y a plein de demandes. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous voyais discuter avec Joël Pomera, je me disais...
Je vais réfléchir pour Joël, parce que c'est ça. C'est un peu compliqué. Il faudrait que je vois un petit peu le travail qu'il fait en
mais
amont.
Mais oui, mais quand vous allez avoir plein de dossiers comme ça, de copains, de copains, de copains, de gens connus, de... Et comment on fait?
Alors, je pense que c'est pas du tout une complication, c'est un véritable plaisir. Moi, j'ai pris la direction de ce lieu en tant que metteur en scène, en tant qu'artiste. Je me considère pas comme une programmatrice, mais par contre, ce qui va m'intéresser dans la programmation, c'est qu'elle soit à l'image de là où j'espère emmener le lieu, c'est sur un métissage. C'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait surtout des esthétiques, des écritures et des personnalités qui ne se ressemblent pas du tout. Et c'est déjà le parti pris de la programmation de 17-18, c'est qu'il n'y aura personne qui se ressemblera. Il y a des spectacles qui sont peut-être indéfendables à l'intérieur, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus fédérateurs. C'est ça qui va m'intéresser. Donc on va avoir un tuilage en fait de compagnies qui vraiment démarrent. Je pense à Amina Gina, qui est en compagnonnage avec Jean-Pierre Barraud, qu'on travaille avec, qu'on accompagne avec le Théâtre National de la Colline, Lou Wenzel, qui est une très jeune metteur en scène, ou Tatiana Spivakova, qui est aussi très jeune, à Joachim Latargé, Pierre Maillet.
À des jeunes habitants du quartier des Amandiers, je vois, qui vont regarder l'histoire du hip-hop, à des élèves de première du lycée professionnel Étienne Dolé. Alors là, le mélange est formidable. Est-ce que ça va vraiment prendre? Ça, c'est la vie qui le dira, j'imagine, c'est un vrai pari. Il y aura de la peinture, parce qu'on ne peut pas oublier que vous êtes la fille d'Henri Guédon, qui lui aussi était à la fois peintre, musicien. Je me souviens de son atelier à Aubervilliers, j'ai dû vous voir petite là-bas,
sans doute.
Et je me dis, on ne peut pas être sa fille non plus sans avoir envie que dans le lieu qu'on va ouvrir, y ait aussi les arts de la rue, la peinture.
Vous savez, dans le lieu, il y a beaucoup de murs parce qu'il y a 3000 mètres carrés, beaucoup d'espace extérieur, un espèce de patio. C'est un édifice qui a été construit par Jean Dumont dans les années 60 et qui vraiment épouse les formes de ce quartier qu'on appelle la banane. Donc c'est un lieu qui me ressemble, qui est tout en rondeur et qui invite aussi comme ça à une circulation assez fluide. Et puis il y a plein de murs extérieurs. Quand on était à Aubervilliers à la Maladrerie, mon père a peint des grandes fresques sur les murs de la cité. Mmh. Quand je suis revenue travailler avec le Théâtre de la Commune 25 ans plus tard, tout avait été tagué dans cette cité, sauf ces fresques-là, et pourtant elles n'étaient pas signées. Donc ces sales jeunes qu'on voyait cramer des voitures sur des mauvaises chaînes de télé et d'actualité, en fait, se sont peut-être posé la question de la conservation artistique, et c'est en tout cas celle-là qu'on questionnera au plateau sauvage du point de vue plastique, on va dire.
Vous savez quoi, Laetitia Guédon, on a envie de vous suivre, hein, Joël?
Ah bah bien sûr, ah bah à fond, hein, oui.
Elle donne
sûr.
Envie.
Ah oui, oui, tout
on
à
y
fait.
Croit.
Bon. J'y crois et.
Rendez-vous. Alors, premier rendez-vous, finalement, parce que vous n'avez pas... vous avez fait aussi avec ce que vous avez trouvé, sans l'écarter. C'est le temps fort, les ateliers. Samedi 17 juin de 14h à 20h et dimanche 18 juin de 14h à 18h, on va trouver les 40 ateliers de pratique artistique amateurs qui vont venir présenter leur travail.
Et alors puis... non, le 17 et 18 juin, on va présenter les 40 ateliers de pratique amateurs qui ouvriront en septembre prochain.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va présenter au public l'offre des ateliers de pratique artistique où les gens pourront s'inscrire
pour la rentrée prochaine. Voilà, parce que exactement. Si on veut s'y inscrire, il faut y être ces jours-là, hein, au moins.
Entre autres.
Et puis, il y a un site où on va retrouver toutes les compagnies, les 40 ateliers, c'est énorme. J'ai bien trouvé, moi. J'ai envie de venir là chez vous. Et pas juste pour boire un pot. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas Joël Pommerat avec ses 3-4 créations qui tournent ou qui sont en création comme du 3 au 16 juillet à Aix en Provence ou jusqu'au 6 août à la Porte Saint-Martin, c'est pour Cendrillon, Pinocchio à Aix en Provence. Merci tous les deux d'être passés par ces studios. Vous retrouverez tout sur notre site pour suivre Joël Pommerat et Laetitia Guédon, et puis aussi pour télécharger cette émission, pour la réécouter, c'est sur le site franceculture.fr. Le Temps Buissonnier, c'est aussi une équipe: Aline Paillet, Franck Lilin à la réalisation, Annie Comier à la préparation et à la technique aujourd'hui. Alain Joubert, je vous souhaite une excellente journée. Ça commence par un journal d'information sur France Culture et je vous dis à dimanche prochain.